Bonsoir. Le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, a en date du 4 août dernier adressé une lettre au procureur général de la République mettant en cause des hauts fonctionnaires et des mandataires publics de la RDC pour des cas de malversations financières. Pour sa part, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, le COCO en sigle, révèle dans son dernier rapport que le trésor public congolais a perdu plus de 1 milliard de dollars américains en 2016. Cette organisation fait remarquer que ce manque à gagner est enregistré faute de paiement d'impôts par plusieurs entreprises privées basées sur le sol congolais. Comment analyser ces révélations? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Ernest Impararo. Il est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, et point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Bonsoir, monsieur Ernest Impararo.
Oui, bonsoir, monsieur.
Professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, il est l'interface du gouvernement en matière d'éthique, de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Bonsoir, professeur Saint-Augustin Mwendambali.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, il est journaliste et analyste économique et politique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, a adressé une lettre au procureur général de la République en date du 4 août dernier, mettant en cause des hauts fonctionnaires et mandataires publics de la RDC pour des cas de malversation financière. Pour sa part, le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption a déclaré que le trésor public a perdu plus d'un milliard de dollars américains en 2016. Plus de précisions avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Cette correspondance adressée au procureur général de la République n'a pas laissé les ONG et la classe politique indifférentes sur la question des malversations financières. C'est le cas du parti politique Congo Positif, un parti du centre qui a évalué le montant évoqué dans ce rapport à près de 10% du budget actuel de l'État. Ce parti estime que c'est un manque à gagner énorme qui empêche l'État d'investir dans des projets de développement. Entre-temps, l'ONG Likoko demande au procureur général de la République de sanctionner les sociétés et fonctionnaires de l'État qui sont impliqués dans la fraude fiscale. Ernest Impararo, président de cette structure, a déclaré qu'en 2016, le Trésor public a perdu plus d'un milliard de dollars américains. La raison de cette perte, fait-il remarquer, est, je cite, « plusieurs entreprises qui sont basées sur place, au lieu de payer les impôts, procèdent par des manœuvres dilatoires en donnant des pots de vin à certains juges pour qu'ils prennent des jugements avant dire droit ». Fin de citation. La Likoko accuse directement certains cadres de la Direction générale des impôts de travailler avec certains juges pour faciliter la tâche aux entreprises qui ne veulent pas payer l'impôt.
Merci Berry Franklin Luchaka, Ernest Impararo. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Likoko en sigle, et point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Vous révélez dans votre dernier rapport que le trésor public congolais a perdu plus d'un milliard de dollars américains en 2016. Quelles sont les données sur lesquelles vous étayez vos informations?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord corriger que je suis le secrétaire exécutif de la Likoko. Et la Likoko est le contact national de Transparency International. Donc nous sommes membres du mouvement Transparency International.
Et vous étayez vos informations sur quels éléments, sur quelles données?
Vous vous souvenez que lors de l'élaboration du budget 2017, on a élaboré le budget 2017 à la hâte et les régies financières, surtout la DGI, a demandé, a informé la commission ECOFIN, disant qu'ils ont des difficultés pour mobiliser l'argent. Et parmi les difficultés, le directeur général de la DGI avait évoqué le fait que la justice, les cours et tribunaux n'aident pas l'État à la mobilisation des recettes de l'État. Et lorsqu'on lui a demandé quelles sont les preuves que la DGI possède, il est venu avec tout un tas de cartes, un carton de documents qu'il a déposé à la commission ECOFIN. Et la Likoko, comme il avait participé à cette commission à l'élaboration du budget 2017, nous avons eu information de toutes ces données que le directeur général de la DGI a déposées à la commission ECOFIN. Nous avons analysé ces données et nous avons constaté effectivement que il y a à peu près 220 sociétés qui sont basées ici à Kinshasa et qui, au lieu de payer des impôts, ils recourent auprès des cours et tribunaux, au tribunal de commerce, à la cour d'appel de Kinshasa, Gombe ou Matete. Ils recourent à ces cours pour que les cours les aident à prendre des jugements avant dire droit, pas pour corriger les erreurs de l'administration fiscale. Donc ces jugements-là devraient normalement corriger les erreurs ou les faiblesses de l'administration fiscale, mais ces jugements avant dire droit sont là pour bloquer le recouvrement. Et lorsque on bloque le recouvrement, la DGI ne peut rien faire. C'est ainsi que nous alertons les autorités du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'ils prennent, parce qu'elles viennent au niveau de l'ECOFIN pour dire, écoutez, la justice n'a pas de moyens, on ne nous donne pas de frais de fonctionnement, alors qu'elles ne mobilisent pas. C'est elles qui devraient produire pour aider le gouvernement à mobiliser l'argent. Vous avez suivi dans d'autres siècles où la justice aide le gouvernement. On taxe par exemple Google pour fraude à l'Union européenne, plus d'un milliard de dollars. Donc, tandis que chez nous ici, les juges, ils se mettent en connivence avec les sociétés moyennant des pots de vin pour effectivement ne pas aider le gouvernement à mobiliser l'argent. C'est ça les grands problèmes que nous avons.
Et donc, ce sont les documents fournis par la DGI qui vous ont motivé, n'est-ce pas, pour mener ces enquêtes?
Effectivement, ce sont des documents authentiques que la direction générale de la DGI a déposé à la commission ECOFIN du Parlement. Comme on a discuté les budgets à la hâte, c'était avec la situation politique que nous connaissons, les gens n'ont pas eu le temps d'approfondir ces documents. Et d'ailleurs, il est venu avec tout un carton de documents. Nous n'avons pris qu'un échantillonnage pour l'année 2016. Ça, c'est un échantillonnage. Mais ces dossiers, ça part de plusieurs années. Il y a plus 2010, 2011. Vous vous souvenez même, nous avions fait une émission ici sur Mino Congo, sur Radio Capi. C'était la même chose. Mino Congo ne voulait pas payer les impôts. Mais lorsqu'il avait été arrêté sous l'initiative du Conseil spécial Luzolo, Mino Congo a payé les impôts à la DGI. Mais c'est toujours la même société qui recourait auprès de cours et tribunaux pour flouer la direction générale des impôts et ne pas payer les impôts. C'est comme ça.
Et donc là, vous parlez uniquement de la DGI, qui est une des régies financières en RDC. Il y a beaucoup de régies financières. Et s'il faut prendre toutes ces régies financières, on pourrait estimer à des dizaines de milliards de dollars américains qui échappent, n'est-ce pas, au trésor public.
Effectivement, ça c'est la seule régie financière, la DGI seulement. Et c'est un échantillonnage de 2016 seulement. Si nous reculons 10 ans avant, vous verrez qu'il y a pas mal, beaucoup de sociétés qui ne veulent pas payer les impôts. Ils profitent de la faiblesse des gouvernants, ils profitent de la faiblesse des institutions, ils profitent de la corruption, des pots de vin, de la non-éthique, effectivement. Et ce qui fait qu'ils s'adonnent, ils ne payent aucun. C'est comme ça que nous avons des budgets de 3 milliards, de 4 milliards, alors qu'on peut avoir des budgets de 50, 60 milliards.
Vous êtes une ONG qui a comme vocation la lutte contre la corruption. Pourquoi, Ernest Maraco, pourquoi vous ne vous êtes jamais intéressé sur cette question de fraude fiscale? Et quand on vous entend parler, c'est comme si la DG ne vous avait pas donné tous ces éléments. Vous n'aurez jamais su pourquoi nous avons l'incapacité, ne sais pas, de mobiliser les recettes dans ces pays.
Non, nous nous intéressons aux finances publiques. Nous participons à l'élaboration du budget depuis le ministère du budget. Par exemple, aujourd'hui, nous étions au Grand Hôtel où nous élaborons les budgets en collaboration avec les partenaires de l'État, les ministères publics. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, les affaires foncières, par exemple, ils sont venus avec une proposition de recette qui ne reflète pas la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte qu'on appelle le certificat d'enregistrement des titres fonciers. Le gouvernement a pris l'initiative de sécuriser les certificats d'enregistrement en donnant au propriétaire d'un titre foncier ou au propriétaire du certificat d'enregistrement une carte électronique. Et vous savez quoi? C'est la société qui est en train d'éditer cette carte électronique, on l'appelle Congo Check. Et les fonds que la société mobilise n'entrent pas dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous avions posé la question au secrétaire général des affaires foncières. Il nous a affirmé clairement que cet argent-là n'entre pas à Degerac.
Voilà. Ces rapports que vous venez de publier arrivent une semaine après que le conseiller spécial du chef de l'État ait déposé une lettre, n'est-ce pas, au procureur général de la République mettant en cause des hauts fonctionnaires, des mandataires et publics ici en RDC pour des cas de malversations financières. Est-ce qu'on peut parler d'une simple coïncidence ou il existe une passerelle entre vous, Likoko, et le conseiller spécial du chef de l'État?
Ce que le conseil spécial a fait, c'était dans ses prérogatives. C'est d'informer les institutions judiciaires. Regarde, il y a des cas. Mais nous sommes venus compléter ce que le conseil spécial a fait. Donc nous avons alerté les autorités pour dire, écoutez, parmi les causes, ceux qui sont derrière toutes ces histoires-là, il y a certains juges et il y a certains cadres de la DGI. Parce que vous verrez que ces entreprises-là sont conseillées par certains agents de la DGI. Merci. Et au niveau des cours et tribunaux, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, c'est parce qu'effectivement, il y a certains juges qui s'adonnent à des pots de vin pour couvrir et en violant même la loi. Que dit la loi, le code des impôts? Le code des impôts dit que même si un contribuable conteste le montant qui lui a été demandé de payer, il paie d'abord 20% du montant principal.
Et cela n'a pas été fait par ces entreprises?
Si vous partez à la cour d'appel à Gombe, si vous demandez les dossiers, vous verrez que la cour a accepté la requête de ces sociétés-là sans avoir vérifié si ces sociétés ont payé 20%.
Merci, professeur Saint-Augustin Mounamba, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Vous êtes l'interface du gouvernement en matière d'éthique, de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Comment vous réagissez à toutes ces révélations?
Merci Radio Capi. J'ai lu aussi, comme tout observateur curieux, à travers les médias, les rapports du monsieur le conseil spécial dénonçant un certain nombre de dysfonctionnements dans certains agents publics de l'État au sujet de la gestion de la chose publique. Je salue l'action et l'initiative du conseiller spécial en transmettant ces dossiers auprès du procureur général de la République. Le conseil spécial s'inscrit dans la démarche régalienne de ses fonctions. Je salue également, même si c'est après coup, la lettre dénonçant ou les rapports de Transparency ou de l'ONG Likoko, dénonçant une perte de 16 milliards l'année 2016. J'ai dit, ces actes méritent d'être punis, sanctionnés. Je sais que la corruption existe réellement, fonctionne à certains échelons de la vie nationale, il faut l'avouer. Mais le problème est que quand vous transmettez des dossiers comme cela, il faut des preuves tangibles. Il faut des longues opérations d'enquête. Même le procureur général, c'est pas demain qu'il prendra la décision de pouvoir arrêter le fonctionnaire véreux. Il aura un temps d'investigation qu'il doit mettre pour se rendre, justement, pour qu'il puisse être informé au sujet de la véracité des faits. Et sur ce plan également, j'ai dit, il ne suffit pas de décrire ce qui se passe au niveau de la justice. Et ici, je rejoins le point de vue de mon ami Pararo, quand il dit les juges en complicité avec certains agents de nos régies financières peuvent se livrer à ce genre d'activité, j'ai dit si la justice ferme la porte, l'administration n'a pas fermé la porte. Et pourquoi pas au niveau de la DGI, on ne peut pas prendre un certain nombre de mesures préventives de manière à suspendre les agents incriminés et à transmettre leurs dossiers au niveau du conseil de discipline où l'OSEP siège, participe à double titre. Non pas seulement attaquer organe siégeant, mais en même temps organe de dissuasion et de persuasion des pratiques de corruption au sein du conseil de discipline. Et pour preuve, il n'y a pas une année qu'on venait de changer tous les membres de ce conseil de discipline suite à la décision du ministre des tutelles de la fonction publique, parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des fortes pressions, des influences terribles provenant de certains individus qui étaient bien placés pour protéger leur poulain. Alors,
oui,
moi, je dis ceci. Je suis d'accord. La justice, et nous avons demandé cela dans la stratégie anticorruption, qu'il y ait une chambre juridictionnelle anticorruption, dirigée par des magistrats formés en matière de lutte contre la corruption, de manière à identifier toutes les formes possibles de la corruption. Notre code pénal actuel est lacunaire à la matière. Nous avons proposé ce projet de loi au niveau du gouvernement, en route vers le Parlement. Vous avez suivi vous-même, les parlementaires étaient le premier à refuter le projet de loi, portant déclaration des avoirs des agents fonctionnaires de l'État, au motif qu'ils n'aimeraient pas, ils disaient c'est anticonstitutionnel, parce que si on acceptait la loi, eux aussi les parlementaires seront soumis au même exercice. Donc pour préserver leur immunité, ils ont préféré recevoir un non de non-recevoir, je le dis, je le répète, la tautologie à ces documents,
professeur Mounamali,
parce qu'ils ne voulaient pas être également concernés.
Professeur Mounamali,
je dis ceci.
Professeur Mounamali.
Oui.
Oui, donc vous dites que vous saluez, n'est-ce pas, cette démarche du conseiller spécial du chef de l'État ainsi que celle de la LICOCO. Oui. Et vous dites que dans ce genre d'activité, il faut des preuves tangibles.
Oui.
Vous avez suivi M. Mpararo de la LICOCO qui affirme que la DGI a fourni à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale un tas de dossiers, de documents plutôt. Est-ce que ces documents ne constituent-ils pas des preuves tangibles?
Preuves tangibles, je veux bien, mais il faut que ces preuves soient soumises, accompagnées de quelques mesures d'accompagnement ou de mesures de prévention. J'ai dit, qu'est-ce qui empêcherait au directeur général de la DGI, au vu de ces documents, de prendre déjà des dispositions administratives, suspendre les intéressés et transmettre leurs dossiers au niveau du conseil de discipline, puisque même dans les codes de conduite de l'agent public de l'État, il est clairement dit l'action administrative est distincte de l'action pénale. J'aurais souhaité que le DG commence par une sanction administrative préventive et ensuite transmettre le dossier au parquet. Comme ça, rien n'échapperait aux essences de ce pays.
Professeur.
Et cette démarche de Mpararo, quand tu le dis, on a exposé les documents, les preuves sont là. J'aurais souhaité que Mpararo viennent sur le plan administratif à l'OCEP, nous exhiber les copies de ces dossiers, nous allions procéder à l'ouverture d'actions disciplinaires,
professeur,
suivie d'une suspension immédiate des concernés.
Professeur Mounamali, vous êtes l'interface du gouvernement en matière d'éthique, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Et quelle est la réaction du gouvernement chaque fois quand vous évoquez avec lui, n'est-ce pas, ces questions sur la fraude fiscale?
Écoutez, parmi les 22 mesures urgentes du gouvernement, on n'a pas cessé de marteler sur la nécessité de combattre la corruption, la fraude et les contrebandes. La réaction, la première réaction du gouvernement à l'issue de la publication de ces mesures, c'était de transformer mon service, qui était jusque-là un service qui ne pouvait pas agir, c'est-à-dire inquiéter directement en diligentant des enquêtes, et en verbalisant le coupable, ils ont pris la décision d'élever ces services et de les considérer maintenant désormais comme un observatoire de surveillance de la corruption doté des OPJ à compétence générale de manière à pouvoir inquiéter enquêter sur les cas de corruption.
Merci.
Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, les mandataires de l'État viennent déclarer leurs avoirs au niveau de mon service, l'Observatoire de surveillance de la corruption. Et à l'issue de cette déclaration, une série d'enquêtes venait d'être diligentée.
Merci, professeur, nous avons compris.
Preuve à l'appui, les soucis et la volonté de la haute hiérarchie de combattre la corruption, la mise en place qui vient de s'effectuer récemment.
Merci. Merci, Israël Moutala. Vous êtes journaliste, analyste économique et politique. Comment vous analysez ces révélations sur les malversations financières en RDC?
Bon, je pense que ces révélations ne m'ont pas beaucoup surprise, pour la simple raison que nous sommes dans un système général de système généralisé de corruption. Mais comme j'ai pas eu les documents et tout le reste, donc j'ai pas encore eu l'enquête pour fouiller tout ça. Sur le chiffre, je sais pas très bien la hauteur de chiffre, parce que la difficulté ne se trouve pas vraiment au niveau de grosses entreprises du secteur minier qui sont surveillées et qui respectent certaines règles d'éthique par rapport à leurs actionnaires. Mais il s'agit d'une somme d'entreprises moyennes et très petites. Je crois que c'est ces petites entreprises-là qui ont des chiffres d'affaires allant de 100 000 à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Il y a un petit maillage, toutes ces petites entreprises. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de fraude fiscale. Parce que, comme l'a dit M. Ernest ici, vous avez des agents fiscaux, certains agents fiscaux qui sont à la fois, qui sont des conseillers fiscaux de ces entreprises-là, qui aident à l'évasion et à la fraude fiscale.
Et pourquoi vous voulez dédouaner les entreprises minières?
Non, je parle, ça veut dire ici, l'entreprise minière, quand je parle de grosses entreprises minières qui payent leurs taxes, je pense par exemple à la première d'entre elles, à Tenke Fungurume, ou à KCC, ou les grosses entreprises, c'est à Moumi, ou à KCC, tout ça. Ces grosses entreprises là-bas, elles sont très, très, très regardante en ce qui concerne le paiement.
Il y a une certaine traçabilité. On peut retracer cela?
Absolument.
Il n'y a pas d'opacité?
Non, il n'y a pas d'opacité parce que la fiscalité minière, c'est une fiscalité qui est plus ou moins exhaustive. C'est connu dans le code minier. Et donc, ce n'est pas une fiscalité assez complexe. C'est une fiscalité bien détaillée et les actes générateurs sont connus. Mais le système fiscal, congolais est un système complexe, d'où d'ailleurs le ministre de Finances a dit au cours de la conférence qu'il a tenue la semaine dernière qu'il faut reformer le système fiscal congolais. Il a annoncé que d'ici le mois de septembre, il va se tenir un grand forum pour justement repenser tout le système fiscal qui est tracassier, qui est complexe, qui est parfois confiscatoire.
Et comment vous pouvez expliquer cette fraude fiscale? Vous l'expliquez par ce que vous appelez système généralisé de corruption?
Bon, la fraude, nous sommes dans un pays où les valeurs ne sont pas respectées, où l'État n'incarne plus cette boussole morale à laquelle les gens doivent se conformer. Les agents qui travaillent pour l'État sont corrompus et corruptibles pour plusieurs raisons. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai reçu des agents du fisc dans mon bureau. Ils m'ont dit qu'ils étaient très mal payés. Voilà pourquoi est-ce qu'ils me tracassaient. Ils sont de la DGI, ils disent qu'ils ont des salaires modiques. Vous allez, la même chose a été réprise chez les magistrats. Les magistrats, c'est des gens, c'est vrai, on leur demande beaucoup, mais il faut absolument qu'on les mette aussi dans des conditions de travail qui les mettent à l'abri de la tentation et de la corruption.
Donc il n'y a pas que l'impunité qui peut justifier ces malversations, c'est aussi les conditions dans lesquelles ces agents fiscaux travaillent.
Absolument. Écoutez, parce que vous dites, moi, quand vous payez à quelqu'un, un agent fiscal, à quelqu'un de la DGI, vous payez 100 000 francs ou 120 000 francs. Bon, voilà, il a une famille à nourrir. Dites-moi où est-ce qu'il va trouver les surplus de revenus pour subvenir à ce besoin. Donc, il va sans doute aller tracasser les gens à gauche et à droite. Voilà. Il faut absolument que nous ayons une politique de salaire qui corresponde aux besoins des gens. Et à ce moment-là, l'État sera exigeant. Mais quand vous ne mettez pas les gens, vous ne leur donnez pas de quoi vivre dignement, mais ils ont un certain pouvoir, ils vont faire du copinage avec les agents économiques pour faire en sorte que l'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État. Donc c'est une question complexe, générale. Il faut vraiment une réforme en profondeur pour qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale. L'autre question, par rapport à cette question de fraude, c'est une question aussi de la confiance. Quand les gouvernés n'ont plus confiance aux gouvernants, payer l'impôt devient quelque chose de rédhibitoire. Les gens hésitent, n'ont pas l'amour pour payer l'impôt parce que ils disent que cet argent ne profite pas à l'intérêt général. Donc il y a tout ça, il faut absolument que nous remettions la question de la fiscalité au cœur du débat politique, parce que sans une fiscalité citoyenne, sans une attitude citoyenne par rapport à la fiscalité, on ne peut pas se développer.
Et c'est le gouvernement qui doit mettre toutes les entreprises en confiance, n'est-ce pas?
Absolument. Il faut que l'État mette les entreprises en confiance. D'abord qu'ils disent, voilà, les nombres de taxes. Il y en a beaucoup. Il faut que le système fiscal soit simplifié. Il faut tout ça pour que même les agents du fisc n'aient pas trop à jouer avec toute la paperasse et tout ça. Mais moi, je pense qu'ici, on ne peut pas dédonner non plus la DGI parce que je vis que... dans l'enquête de Monsieur Ernest, il a parlé de la magistrature.
C'est la DGI qui s'est plaint.
Oui, la DGI qui s'est plaint. Mais c'est que la DGI n'a pas de bons juristes. Parce que les avants d'Irdoa, ce sont des jugements, comme l'a dit, ce sont des actes judiciaires. Donc, il faut prendre de bons avocats. Parce que quand les certaines entreprises vont en justice, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont victimes du terrorisme fiscal. Et donc, ils ont des bons avocats pour essayer de se prémunir contre le terrorisme fiscal. À la DGI, de former ses juristes pour que contrecarrer. Mais par rapport à 50 milliards de dollars qu'a évoqué Ernest ici, par rapport à ce qu'on pouvait entrevoir comme budget, non, on ne peut pas avoir, même si on bouchait tous les trous de la fraude, tous les trous de la corruption, tous les trous de la contrebande, on ne peut pas avoir un budget national de 50 milliards de dollars.
C'est pas impossible, monsieur Moutala.
Non, c'est impossible parce que le budget, il faut pas confondre. Ça veut dire que le prélèvement fiscal, on prélève sur une richesse produite. Or, la richesse produite de la RDC pendant une année est autour de 40 milliards. Sur les 40 milliards, si on a un taux fiscal de 10%, on prélève 4 milliards. Si on a un taux de pression fiscale de 20%, on est autour de 8 milliards. Donc, la moyenne africaine est autour de 20-25%. Donc, si on a un budget, un PIB de 40 milliards, même si on bouge tous les trous, on peut espérer avoir un budget
Évidemment, tout cela est discutable. Hein, tout cela est discutable. Monsieur Ernest Mpararo, vous allez réagir à cette réflexion de monsieur Abednego Zachary Kingombe.
C'est Zachary Kingombe depuis la ville de Kisangani. Cette révélation de la Likoko est une réalité qui a tenu d'ailleurs l'ampleur réelle de la situation. Le montant qui échappe au trésor public doit dépasser celui qui est avancé. Quoique irréel, cette révélation ne changera rien malgré la notification du conseiller du chef de l'État pour les PCR. Cette notification n'est pas la première. Avant, il y en avait eu de plus graves, mais qui sont restés l'air des morts. En RDC, les antivaleurs sont maintenant érigés en valeurs. Au regard de ce qui précède, je conseille à M. Luzolo de démissionner de ses fonctions parce que tous ses conseils n'ont jamais été pris en compte.
Oui, M. Ernest Mpararo.
Oui, je comprends mon frère Zachary de Kisangani, mais il doit effectivement connaître que rester sans rien faire ou faire quelque chose, c'est différent. Luzolo, c'est un conseiller spécial qui dépend effectivement du chef de l'État directement. Il a fait son travail comme il peut le faire. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est aux cours et tribunaux. Le problème c'est au niveau de la justice. Et nous, citoyens, nous avons ce devoir de dire au juge, de dire au magistrat,
de pousser la justice à faire son travail.
Et de pousser la justice à faire son travail. Nous avons ce droit-là. Et nous avons ce devoir de le faire, comme nous venons de le faire. Nous venons de saisir le procureur général.
Vous pensez que le procureur général a besoin de vous pour mener des enquêtes dès lors qu'il a des indices, n'est-ce pas, des fraudes? Il a l'obligation, n'est-ce pas, et les devoirs d'initier des enquêtes.
Effectivement. Et lorsqu'il n'initie pas, soit il est complice, soit il a des pressions politiques. Ce sont les deux cas. Or, nous pensons que ce sont les pressions politiques qui priment sur son activité. Parce que, à part ça, nous avons les dossiers BIAC. Il y a des rapports des inspecteurs judiciaires, mais ils tardent à punir ou à saisir les biens. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 épargnants qui attendent leur argent. Ça, c'est un dossier. Donc, nous pensons que nous devons aider le procureur général de la République à aller plus loin, à investiguer. Nous devons les soutenir. S'il faut venir dormir chez lui pour qu'on ne vienne pas les faire partir, nous dormirons chez lui.
Oui, donc, vous avez suivi le professeur Mounambali qui a dit que dans ce genre d'activité, il faut des preuves tangibles. Il se demande mais pourquoi vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas déposé, n'est-ce pas, de documents, votre rapport à l'OSEP.
Non, l'OSEP, c'est autre chose. Ce que nous accusons sont des faits qui sont devant les cours et tribunaux. Ce sont des dossiers qu'on a déjà saisis, les tribunaux. Donc, lui, l'OSEP ne peut plus rien faire. Parce que c'est le parquet qui doit poursuivre. C'est le cours qui doit juger et sanctionner. Alors, nous travaillons pour que ces cours puissent faire leur travail.
Est-ce que vous ONG, il y a convocation à la lutte contre la corruption, est-ce que vous êtes en contact souvent avec l'OCEP? Est-ce qu'il y a une passerelle entre l'OCEP
oui.
et les ONG de lutte contre la corruption?
Oui, nous sommes en contact, on participe dans beaucoup de réunions ensemble, mais lorsque les dossiers sont devant les cours et tribunaux, je pense que l'OCEP doit se mettre à l'écart, parce que les dossiers déjà devant les cours, le bureau du président a déjà saisi les cours pour que les cours sanctionnent. Cela veut dire que tout citoyen, maintenant, doit aider les cours, tout Congolais doit aider les cours à sanctionner ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez très bien, lorsqu'il s'agit d'arrêter un défenseur des droits de l'homme, c'est 2 minutes. Mais depuis qu'on a déposé la lettre de Luzolo, il y a encore des investigations. Or, nous savons tous, vous avez suivi le dossier FPI. Le dossier FPI, on en a discuté sur Radio Okapi. Personne n'est arrêté. Si vous partez à Makala, vous faites une rétrospection de 5 ans de cela, vous ne verrez aucun ministre là-dedans, vous ne verrez aucun DG là-dedans, vous ne verrez aucun général là-dedans. Or,
et donc il y a une classe de gens qui sont intouchables.
Effectivement, c'est ce que nous voulons que le PGR puisse se saisir. Parce que c'est lui qui doit sanctionner les ministres, c'est lui qui doit sanctionner les gouverneurs, c'est lui qui doit sanctionner les directeurs généraux.
Lorsque vous-même vous affirmez qu'il y a des pressions politiques sur le PGR, est-ce que vous les poussez aussi à mener des enquêtes, est-ce que vous n'êtes pas en train de l'exposer?
Non. D'ailleurs, nous sommes en train de le soutenir. Nous sommes en train de le soutenir. S'il faut aller dormir chez lui pour qu'on ne puisse pas l'arrêter ou qu'on ne puisse pas le faire partir, nous dormirons. Merci. Vous avez vu à Venezuela. Au Venezuela, il y a un procureur général qui voit ça. Donc, nous voulons arriver à cela. Qu'on demande aux citoyens de soutenir nos juges, de soutenir nos procureurs pour qu'ils arrêtent tout ce qui détourne.
De soutenir la justice.
Effectivement.
Professeur Menambali, il y a une question à laquelle vous allez répondre.
Valérien Bilizi de Bukavu au sud Kivu. Les révélations en soi sont bonnes. Pendant, il fait un moment depuis que des révélations similaires sont publiées contre des autorités politiques en RDC. Hélas, rien n'est toujours fait contre ces dernières. Pas d'enquête ouverte pour tenter de confirmer ou infirmer la culpabilité des présumés. De surcroît, je suis désolé de constater qu'au lieu de les poursuivre, ils sont alors objets de promotion. Je crains, à mon avis, que ces révélations ne soient une lettre morte, car des malversations ne peuvent cesser qu'avec la fin de l'impunité. Je me demande à qui la faute entre les présumés et les promoteurs de l'impunité.
Professeur Menambali.
Je partage en partie l'inquiétude de notre auditeur. Je ne cesserai de le répéter, que les essences du pays nous ont donné le feu vert pour établir une banque de données de délinquants éthiques et que désormais nous sommes consultés pour donner des avis consultatifs, je dis bien, à l'autorité pour pouvoir l'aider dans la désignation des cadres de notre pays. Déjà, c'est une avancée majeure et qui répond aux préoccupations de notre auditeur. Alors, je voudrais juste ajouter un mot concernant mon ami Pararo, qui a parlé que dès que le dossier se présente à la justice, l'OCEP doit se mettre à l'écart. Et je crois que c'est ignorer un peu les missions de l'OCEP. Pararo n'est pas sans ignorer que même au niveau de l'appareil judiciaire, nous faisons la surveillance et la corruption. Et quand nous ne sommes pas saisis, intéressés par des dossiers qu'on envoie au niveau devant les cours et tribunaux, il y a une partie d'information qui peut nous échapper. Et voilà pourquoi est-ce que même le gouvernement a décidé désormais d'installer des antennes d'infrastructures éthiques dans chaque service de l'État, de la présidence de la République, à la primature, à l'Assemblée nationale. Partout, il y aura un répondant qui va servir d'interface entre le service en question et l'Observatoire de surveillance et la corruption. Vous n'êtes pas sans ignorer que nos magistrats ne sont pas à l'abri de la corruption, vous l'avez bien démontré. Notre analyste l'a démontré avec le mec de salaire qu'ils peuvent toucher, bien que l'argument de salaire ne tienne pas toujours debout, parce qu'entre deux personnes qui touchent le même salaire, il nous est arrivé de constater une des personnes ne cède pas aux pratiques de corruption, tandis que l'autre trouver une fierté dans la corruption.
Professeur.
Et il y a des gens qui font même l'éloge de la corruption.
Professeur,
l'OCEP ne peut pas être mise à l'écart parce que même les conseils supérieurs de la magistrature, nous intervenons. Même au niveau du procureur général de la République, au moment où il rend le droit, il dit le droit, l'OCEP l'observe. Le code de conduite, il est assujetti aux dispositions du code de conduite d'agent public de l'État.
Nous avons compris, professeur.
En cas de dérapage, l'OCEP intervient.
Nous avons compris, l'OCEP doit être impliqué, n'est-ce pas, dans tous ces processus. Professeur, ces antivaleurs ont toujours été dénoncés à travers des rapports des ONG nationales et internationales. Et pourquoi, à votre avis, les lignes ne bougent-elles pas? Est-ce que ce n'est pas aussi l'OCEP qui n'a pas su assumer ses tâches? Parce que vous dites que vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de donner des avis consultatifs.
Oui. C'est pas pour rien, j'ai encore insisté là-dessus. Nous avons fait un rapport à la haute autorité qui a réagi favorablement. Il fallait impliquer davantage l'OCEP par rapport à la première ligne de conduite qui consistait seulement à donner des conseils moraux, des avis moraux. On nous a renforcé la mission et désormais, nous marchons pas à pas ensemble avec la justice, ensemble avec l'autorité qui a instruit pour que la vérité puisse éclater à la longue. Donc, l'OCEP ne joue plus les rôles qu'on avait dit qui n'étaient pas coercitifs. Par contre, l'OCEP aujourd'hui intervient puisqu'elle lui-même verbalise. L'OCEP va maintenant envoyer et envoie déjà des dossiers auprès du procureur général de la République, comme le conseil spécial du chef de l'État l'a fait. Et maintenant, c'est que nous attendons qu'il y ait une coordination. Vous ne pouvez pas non plus... Vous savez que notre loi est lacunaire en matière de corruption. Je ne cesse de le dire. Notre loi est lacunaire.
On va y revenir dans la partie sur les solutions. Israël Moutala, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Mbandaka.
Messak Lokando, depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Je pense que pour rester dans cette mission... Il faudrait que le gouvernement congolais fasse un effort pour que les hauts fonctionnaires, les mandataires publics ainsi que certains hommes politiques cessent de se transformer eux-mêmes en opérateurs économiques ou en commissionnaires pendant l'exercice de leurs fonctions. Parce que l'on constate certainement que ce sont eux qui sont à la base de la fraude et de l'évasion fiscale dans notre pays.
Est-ce une solution ? Interdire aux opérateurs économiques et plutôt aux politiques de se livrer aussi dans des activités économiques, commerciales.
Non, ça veut dire que d'abord, il y a ce qu'on appelle de conflit d'intérêts. Et je pense que la moralité publique exige que quand on est dans une position publique d'autorité, qu'on ne puisse pas commercer ou user de sa position pour se procurer des avantages économiques indus. Et donc, voilà, il y a quand on est fonctionnaire public, il y a un code d'éthique qui interdit un certain nombre d'actions, notamment commercer, enfin, c'est déjà prévu. Mais sur la question des commissions, bref, ou des rétrocommissions, il faut des lois strictes qui encadrent ça. Mais aujourd'hui, ne rêvons pas. Ça veut dire que quand vous avez un mandataire public qui apporte un marché d'une valeur de 10 millions, les commissions sont courantes, que ce soit au gouvernement, que ce soit partout. Donc, il faudrait absolument un niveau éthique.
Et ce n'est pas réglementé.
Non, c'est pas réglementé. C'est pas réglementé. Mais la vraie question ici.
Israël Moutala, nous avons dans beaucoup de domaines des lois, n'est-ce pas, qui régissent beaucoup de matières, mais on se rend compte que les gens ignorent ces lois.
Oui, mais
donc
mais
ce n'est pas un problème des lois. La loi peut exister, mais si l'homme refuse, n'est-ce pas, de tenir compte de ces lois.
La question n'est pas que les lois existent. La question, c'est l'application de loi. Elle pose problème. Donc, elle pose problème. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Si nous partons de l'idée que la transparence est une vertu, la transparence que défend M. Ernest Pararo, si c'est une valeur, vous élevez ça en vertu cardinale à la République, du président de la République jusqu'au huissier, vous allez avancer. Mais vous êtes dans une société de opacité. Les gens accèdent au pouvoir. Ils amassent des patrimoines importants qu'ils déclarent sous pli fermé. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que les gens jouent la peur de la transparence. Vous avez, il a dit ici, le ministre Ernest Pararo a dit que les députés ne voulaient pas la loi sur la transparence. C'est immoral. C'est l'argent des Congolais. Vous devez savoir pour telle tâche que vous rendez à la nation, vous recevez de la nation, du trésor public, telle rémunération. On ne devait pas, les salaires ne doivent pas être un secret. Et donc, tant qu'on fera du salaire, du patrimoine de tout le monde, des dirigeants publics surtout, une question d'État, une question de secret d'État, dites-vous que la corruption se portera bien.
Merci. Ernest Pararo, nous sommes peut-être qu'à la fin de l'émission, nous allons commencer avec la conclusion. Que faut-il pour combattre efficacement les malversations financières dans ces pays, pour combattre la fraude fiscale?
Au niveau de la LICOCO, nous encourageons les citoyens, nous encourageons les Congolais à dénoncer les pratiques de corruption. En tout cas, chaque Congolais, Onyo Sazo Landabiso, a kende
par quel canal
a dénoncé à kende comme on a procureur ou bien ceux qui a monité à mon alikoko bazo ya landabiso ba landabiso na français to lo bana lingala ba tu nyoso
ba bazala ba pratique. Est-ce que vous pouvez donner le l'adresse des sièges de likoko
biso pour que les gens sachent où likoko, vous trouvez likoko ceux qui bosa ba dossier ba corruption ceux qui bosa ba dossier n'importe quel dossier biro na biso eza avenue Luango numéro 4 quartier 1 référence bar Grand Liboulou Nanjili boulevard Kimbuta. Ou bien vous bengi biso na 081 60 49 837. So ki biso to bandi koloba oh non yo oyaki bourgmestre au commun na quartier deux mois après au bandi ko tonganda to donner soi.
Et en conclusion le seul fait de dénoncer suffit pour combattre efficacement la
fraude. Effectivement, parce que so ki biso nyonso to yebi ke to tio na poisa ba to ra ko wana poyer. Si nous commençons à dénoncer, les gens sauront que telle personne est arrivée, il a volé, il a détourné les données publiques. Nous savons tous et nous pouvons faire pression maintenant aux juges et aux magistrats pour qu'ils arrêtent ces personnes-là.
Alors, comment vous entrevoyez la suite? Est-ce que votre rapport pourra avoir un impact sur cette lutte contre la fraude?
Nous espérons, parce que d'ici une semaine, nous allons rencontrer le Conseil supérieur de la magistrature, effectivement, pour discuter de ces dossiers, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que nous avions copié les ministres des Finances. Le ministre des Finances, je pense qu'il va réagir, ou à travers, en demandant son collègue du ministère de la Justice, que nous avons copié aussi, pour qu'il mette en place une commission pour étudier tous ces cas. Parce que les pays manquent d'argent, on nous dit qu'il n'y a pas de devises, on nous dit que dans la Banque centrale, il n'y a pas d'argent, mais les entreprises ne veulent pas payer.
C'est ça. Merci. Professeur Mounambali, en conclusion, que faut-il pour combattre efficacement la fraude? Vous avez commencé par parler des réformes de certaines lois.
Oui, réformes de certaines lois. Il faut qu'il y ait une loi spéciale réservé aux questions des corruptions, puisque la corruption présente plusieurs facettes. Aujourd'hui, notre code est lacunaire en la matière, et la proposition de la loi que nous avons proposée, le projet, mérite vraiment d'attirer l'attention des députés quant à ce. Les députés doivent s'impliquer. Déclarer les avoirs, c'est un acte de patriotisme. C'est montrer que vous avez le respect des biens communs, le bien qui appartient à nous tous. Donc ce n'est pas pour une catégorie de personnes de déclarer leurs avoirs et d'autres catégories ne pas en déclarer. Et enfin, dans la lutte contre la corruption, il n'y a pas seulement la répression qui compte. Vous ne créerez pas 70 000 centres de dépôts, de maisons d'arrêt pour y mettre les agents ou les agents publics de l'État véreux. Mais je crois qu'il faut aussi partir d'un triumvirat qui dit ceci. L'éducation doit commencer par la famille. D'où l'importance de l'éthique au sein de la famille. Nous sommes en train de former des criminels, des truands qui échappent au contrôle des parents, qui ne sont plus contrôlés par la société.
Merci.
Et qui, au finish, quand ils atterrissent dans la gestion à la tête des affaires de l'État, c'est pour les Sodome et Gomorra, ça vous le
Merci.
Savez bien.
Merci, professeur.
Donc ce n'est pas seulement la répression qui doit jouer son rôle jusqu'au boutisme, mais il faut commencer par la famille, les cours d'éthique, les civisme à l'université.
Merci, professeur, nous avons compris.
Dans des pays voisins, les cours de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance sont déjà introduit au niveau des universités.
Merci, professeur. Merci, Israël Moutala. En conclusion, c'est quoi la solution pour combattre efficacement la corruption dans ces pays?
Pour moi, d'abord, c'est pas une question d'une inflation de lois. S'il ne faut pas ajouter une nouvelle loi, non. Si vous pouvez ajouter toutes les lois que vous voulez, mais s'il n'y a pas de volonté politique, si vous ne dites pas que la corruption est un fléau qui appauvrit l'État, Donc vous n'allez pas avancer.
En plus des lois, il faut dénoncer comme l'a proposé M. Barango.
Il faut protéger. Quand Lozolo était ministre de la justice, il avait encouragé les délations. Il y avait même des gens qui avaient quitté le Katanga, qui avaient dénoncé les fraudes. Ils étaient en danger. Lozolo était incapable de les sécuriser et les actes n'avaient jamais abouti. Et donc aujourd'hui, pour moi, la question passe exactement par l'indépendance de la justice. Et c'est ça, je pense que quand on a une justice forte, on peut moraliser la vie publique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Didier Nyangasa qui était à la technique. Merci à Alain Rung, Berry Frankel Nchaka, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suivi du programme sur Radio Capi.